Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous servir dans cette émission. Et merci de nous suivre partout où vous êtes en RDC. Réouverture des écoles, quelles sont les dispositions prises face au Covid-19? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien et comment rattraper aussi, récupérer le retard déjà enregistré. Bien, nous parlerons de toutes ces questions dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons déjà en ligne Jean Bosco Pouna, secrétaire exécutif du syndicat des enseignants du Congo. Jean Bosco, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission Okapi Service. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger sur la réouverture des écoles. C'est déjà le 22 février, lundi 22 février. Dans la seconde partie de l'émission, résurgence d'Ebola. Comment s'organise la riposte? On en parle dans cette émission de la vie au quotidien Okapi Service. Des questions et préoccupations? Eh bien, le standard est ouvert. Composez le 081-890-63-94. Écrivez nous également à service@radiookapi.net. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination au micro, Jody Daniel Cachemin sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Okapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Okapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, les écoliers vont reprendre le chemin de l'école. Voilà, exactement, le chemin de l'école le 22 février. Bien, c'est la date officielle de la réouverture des écoles et des universités en République démocratique du Congo. Ceci après 2 mois de fermeture à la suite de la deuxième vague du Covid-19. D'après le secrétariat technique de riposte, les mesures prises par le chef de l'État face à la deuxième vague ont donné des résultats encourageants, car on assiste aujourd'hui à une baisse des cas de contamination. Alors comment les écoles vont s'organiser pour rattraper le retard enregistré, et puis quelles sont les dispositions prises pour une reprise sans risque de contamination dans nos écoles? Jean Bosco Pouna, vous êtes secrétaire exécutif du syndicat national des enseignants du Congo. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour. Je disais que je suis secrétaire général du syndicat des enseignants
des écoles conventionnées catholiques.
D'accord. Des SINECAT, oui.
D'accord, SINECAT. Alors, dites-nous, Jean Bosco, c'est déjà conclu, donc les enfants vont reprendre les chemins de l'école le 22 février. C'était d'ailleurs ça, votre combat, c'était votre souhait. Alors on peut dire aujourd'hui qu'on est dans les bons, il y aura plus d'années blanches, comme beaucoup de personnes le redoutaient.
Bien, beaucoup de personnes le redoutaient, c'est vrai. Il faut dire que au niveau du SINECAT, nous saluons cette mesure. Parce que il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de plaidoyers, notamment de notre syndicat, mais aussi le 20 janvier dernier, la coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, nous avons tenu un point de presse sur la question et nous avons même donné un ultimatum au gouvernement pour que les écoles puissent reprendre les activités. Parce qu'on était en train de frôler une année blanche. Mais vous avez également suivi le 14 janvier la réaction de l'UNICEF. L'UNICEF a rebondi sur la question et avait demandé au gouvernement de prendre la mesure courageuse de réouvrir les écoles et éviter à notre jeunesse des conséquences à court et à long terme. Mais récemment, nous tous, nous avons également suivi des diplomates qui ont emboîté les pas en faveur de la reprise des activités. Ça fait donc beaucoup d'arguments pour les plaidoyers en vue de la reprise des activités. parce que nous avons pensé que c'était fondé et pertinent à que les écoles et les universités puissent rouvrir afin d'éviter un impact mental et éducatif négatif sur les enfants, sur les étudiants, mais aussi sur le pays. Bon, maintenant, nous tous, nous devons nous préparer à recommencer les enseignements à partir de lundi 22 février, mais il y a des conditions, il y a des choses qui ne sont pas encore bien réglées pour que les enfants soient accueillis de manière favorable au niveau des écoles, dans les milieux scolaires.
Quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions, Jean Bosco?
Bon, les différentes conditions. D'abord, il faut dire que il faut que les écoles soient en mesure de pouvoir accueillir, je dirais, en toute sécurité les élèves. Donc, il faut prendre des mesures de prévention, des mesures de sécurité sanitaire, parce que la maladie est là. Nous avons l'obligation de protéger les élèves et les enseignants. Et donc, il faut absolument que les écoles soient désinfectées. Ça ne coûte pas trop si les écoles et les ministères s'organisent. Il faut également placer les dispositifs lavage-main dans les écoles. Mais aussi, il faut renforcer les mesures barrières. Parce que il faut éviter que les enseignants tombent malades ou les élèves. Ce sont tous ces dispositifs-là qui doivent être pris au niveau des écoles. Mais il faut également que les chefs d'établissement puissent utiliser rationnellement les frais de fonctionnement qui sont mis à leur disposition, ne fût-ce que pour mettre la salubrité à l'école. Il faudrait que les écoles qui reçoivent les élèves le 22 février soient des écoles propres, soient des écoles salubres, pour que nous n'ayons pas des problèmes de santé. Voilà ce que nous pensons au niveau du CINECAT.
Donc, toutes les écoles doivent d'abord être désinfectées. Voilà, c'est
ça. Il faut commencer par là. Parce qu'il y a des moyens qui sont là, disponibles, qui ont été mis à la disposition du ministère, mais aussi les écoles peuvent s'organiser avec les moyens de bord, juste pour avoir les quelques produits qui peuvent permettre que les toilettes soient désinfectées, parce que les élèves vont utiliser les toilettes. Mais également, il faut que là où il n'y a pas d'eau, que les écoles vraiment puissent faire un effort. Bon, la régie des eaux ne nous permet pas vraiment de bien travailler, parce que déjà nous vivons cette pénurie. Alors, qu'est-ce que ça va devenir au niveau des écoles? Donc, les écoles doivent se préparer pour disponibiliser de l'eau, parce que l'eau sera utilisée, ça sera une véritable denrée, un véritable trésor au niveau des écoles. On va les utiliser pour laver les mains, mais on va également les utiliser au niveau des toilettes. Il faut absolument que nous ayons tous ces dispositifs et les écoles doivent s'y prêter. Les ministères, ce qu'il en reste encore, doivent s'y prêter pour que le travail soit correctement fait.
Bien, et par rapport au programme d'enseignement, est-ce qu'on peut dire qu'avec le temps qui nous reste, on ne sait pas, bon, l'année a redémarré, on va aller jusqu'à quel mois, est-ce qu'il est possible de rattraper le retard déjà enregistré?
Bon, mais ça sera difficile de rattraper le retard si le calendrier scolaire n'est pas réaménagé. Il faut, c'est un impératif d'ailleurs, que le calendrier scolaire soit réaménagé. Le calendrier actuel va du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 23 juillet 2021. C'est ça l'ancien calendrier que nous avions. Ce calendrier a été élaboré. Nous n'avions pas compté toutes les interruptions que nous avons aujourd'hui. Et donc, il y a l'impératif de pouvoir revoir les calendriers parce que nous venons de perdre exactement 44 jours de cours. Des cours qui devraient redémarrer le 5 janvier ont été suspendus à la suite de la pandémie. Aujourd'hui, nous avons presque perdu 44 jours. S'il faut ajouter les 30 jours de grève que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC avait lancée, ça nous fait plus ou moins plus de 2 mois que nous avons perdu. Donc il y a l'impératif de pouvoir techniquement réaménager les calendriers pour que nous puissions intégrer tous les éléments, tous les cours qui n'ont pas été donnés. Les faire autrement, ça sera vraiment un sous-enseignement, un enseignement au rabais. Et nous, en tout cas au niveau du syndicat, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc les ministères.
Alors d'après vous, s'il faut réaménager le calendrier scolaire, il faut aller jusque. On doit aller jusque quand exactement?
Non, mais il faut aller au-delà du 23 juillet, c'est-à-dire techniquement, il faut récupérer les cours qui n'ont pas, les jours qui n'ont pas été prestés. Vous savez que l'élaboration du calendrier, c'est un processus participatif. Eh bien, si le ministère fait le travail tel qu'on devrait le faire, eh bien, au courant de cette semaine, on va mettre autour les techniciens qui travaillent sur les calendriers et tous les partenaires pour que nous puissions finalement dégager le nouveau calendrier qui doit être appliqué à partir du 22 février. Parce que n'oubliez pas que le calendrier est imposable à tous. Donc il ne faudrait pas qu'on nous impose encore un calendrier sans avoir requis l'avis de tous les partenaires qui sont habilités à pouvoir discuter du calendrier scolaire.
Donc, on peut dire aussi que
ce calendrier soit réaménagé.
Oui, est-ce que les écoles privées également sont concernées par ce calendrier?
Mais bien sûr. Le calendrier scolaire, c'est un document de référence des gestionnaires, des inspecteurs, du personnel enseignant, des partenaires éducatifs. Le calendrier scolaire concerne les écoles publiques et les écoles privées agréées. Donc nous tous, nous sommes soumis à la loi cadre de l'enseignement national, la loi 14004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Et donc, ce calendrier réaménagé va concerner toutes les écoles, aussi bien publiques que privées.
Bien, d'accord. Nous parlons de la réouverture des écoles le 22 février. Deux auditeurs en ligne, Fariel depuis Les Baux et Barnabé depuis Bukavu. Des questions et préoccupations, eh bien, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Bien, nous parlons de la réouverture des écoles le 22 février. Quelles sont les dispositions prises pour que les enfants reprennent les cours sans risque de contamination et comment rattraper le retard déjà enregistré en ligne Fariel depuis Il est beau. Bonjour Fariel, et quelle est votre question?
Oui, bonjour Monsieur Jeudi et bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi. Monsieur Jeudi, je suis en train de féliciter le gouvernement pour la reprise des activités. Mais je suis en train de me demander pourquoi nous avons perdu les 2 mois à la maison, les enfants à la maison, sans pouvoir aller à l'école. Parce que ils ont pris les mesures après la deuxième vague. Mais nous, ils ont toujours repris les mêmes mesures avant la deuxième vague. Et les mêmes mesures après la deuxième vague. Donc, nous ne voyons pas les mesures fortes qui peuvent permettre les enfants à étudier très, très, très calmement parce qu'ils ont repris toujours les mêmes mesures. Mais pourquoi nous avons perdu les deux mois à la maison? Parce que nous, on patientait à avoir les mesures vraiment fortes qui peuvent aider les enfants. Mais c'est toujours les mêmes mesures, les mêmes stratégies. C'est pourquoi nous ne voulons pas vraiment les mêmes stratégies parce qu'on s'attendait à un changement après la deuxième vague. Mais quand le gouvernement reprend toujours les mêmes mesures, en tout cas, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Parce qu'il n'y a pas les mesures vraiment fortes. C'est vite vraiment l'invité qui est là et à interpeller aussi davantage le gouvernement. Parce que les enfants ne peuvent pas perdre beaucoup de mois à la maison et reprendre les activités toujours les mêmes mesures.
Alors mais quand vous parlez des mêmes mesures, qu'est-ce que vous voulez finalement?
Parce que les mêmes mesures là, parce que le docteur disait que c'est la deuxième vague, nous devons quand même intensifier les mesures.
Oui.
Mais quand ils sont là, c'est toujours les mêmes mesures de porter les masques, de laver les mains et respecter la distanciation sociale. Mais
bon, ça, d'après les informations reçues, le gouvernement a décidé de la réouverture des écoles parce que il y a baisse des cas de contamination, donc la courbe a baissé et c'est pour cela qu'on autorise maintenant que les écoles réouvrent.
leurs portes.
Nous ne voulons pas la distraction. Partout ailleurs, là, les enfants évoluent. Ce n'est que chez nous, nous vivons de tels genres de manœuvres, tout ça dilatoire. C'est pourquoi nous, on va tenter des mesures foires, voilà au moins.
Merci. Barnabé, vous êtes à Bukavu, bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, Radio Okapi. Oui, je suis Barnabé depuis Bukavu, je salue la Radio Okapi.
Barnabé, quelle est votre question par rapport à la réouverture des écoles?
Oui, avant d'aller là, je salue aussi l'invité. Alors, par rapport à la thématique, c'est vrai, j'ai intervenu pour saluer aussi les mesures qui ont été prises par les autorités du pays. Cependant, il n'y avait pas jusque-là la question ou la convenance. Ce qui devait nous convaincre sur la fermeture des écoles sur toute l'étendue du pays. Puisque depuis qu'on a fermé, on a pensé fermer les écoles, vraiment, on a enregistré un bon nombre de cas, puisque la deuxième vague était venue fortement, mais ça n'avait pas empêché qu'on ne puisse pas enregistrer normalement des cas. C'est pourquoi nous, je voudrais que l'invité puisse nous éclairer quant à ça, par rapport à ce qu'il dit, puisque lorsque nous avions en train d'observer, nous sommes dans un, je ne sais pas si c'est dans un confinement ou quoi, mais les cas ne cessent de s'enregistrer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne respecte pas les mesures pour autant que on a fermé pour faire respecter ces mesures?
Bien, merci. On va accueillir l'ingénieur Pierre Moussafiri depuis Goma. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Voilà. D'entrée de jeu, je salue cette reprise des activités scolaires et académiques suspendues il y a près de 2 mois. Mais c'est jeudi. Ils ont déclaré la reprise des activités, mais ils n'ont pas pris de mesures à respecter qui doivent être obligatoires. Je pense que il n'y a pas de nouveau. C'est toujours le port des masques, la face de main, mais seulement ça. Car côté distanciation sociale, je pense que ça sera un peu impossible. Comment? Vous verrez dans une école où il y a 50 enfants, sur la pupitre, il y a une affaire de 4 enfants. Et pendant la reprise, il n'y a pas moyen de les séparer. Jusqu'ici, il n'y a pas ce qu'on fait pour installer d'autres chaises ou dans ces écoles. Là, ça, nous le voyons souvent. Des côtés même, lavage de main. Toutes les écoles, ils n'ont pas les sons de lavage de main, à moins qu'ils préparent ça avant la reprise de ces activités scolaires. Quant à moi, je me demande pourquoi ils ont attendu tous ces 2 mois avant pour déclarer la réouverture des écoles pendant qu'il n'y a pas de nouvelles dispositions qui ont été prises. Cela me pousse à croire que la fermeture des activités scolaires et académiques n'était pas la COVID, mais aussi...
Oui, c'était quoi d'après vous?
Oui.
Et c'était quoi?
Les NI et les NP, les nouvelles unités de nos pays, c'est ça la cause, parce que ça causait toujours problème. Je disais à ce qui concerne d'abord, l'invité disait que le calendrier scolaire ne sera réaménagé. Mais comment se fait-il que pour les écoles privées, pendant la fermeture, ils avaient déjà terminé les examens du premier semestre? Pour les écoles public.
Même les écoles. Oui, il y a des écoles qui continuent à fonctionner par les enseignements à distance.
Oui, oui, ils fonctionnaient en enseignement à distance, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès. Comme au village, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la télévision, les enfants n'ont pas accès. Ça, c'est un problème. Je disais, ça, c'est sûr. Les écoles privées avaient déjà terminé avec les examens du premier semestre. Pour le public, ils étaient toujours en arrière. Comment ça sera que le calendrier sera le même pendant qu'ils ont un écart de fonctionnement. C'est ça, merci.
Bien. Daniel Lungembo, depuis Kisangani. Bonjour, depuis Boyoma. Quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour, Radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Monsieur Jody, j'aimerais dire que le ministre de l'EPST nous avait dit que l'équipe technique et le gouvernement sont en train de prendre des mesures pour la reprise des cours. Bon. Nous risquons de croire qu'il n'y a pas la COVID-19, mais plutôt un jeu politique dans le secteur de l'enseignement pour rendre la gratuité de l'enseignement non efficace. Alors ma préoccupation est celle-ci. Où sont les nouvelles mesures promises par le ministre de l'EPST?
Bien, merci. Je ne sais pas quelles sont ces mesures qu'il avait promis. Timothée Kaleka, vous êtes à Luisa, au Kasaï Central. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, la radio Capi, bonjour à l'invité. Bon, tout d'abord, je salue d'abord cette initiative de la réouverture des activités scolaires dans le secteur éducationnel. Nous sommes beaucoup intéressés surtout vraiment, mais tout d'abord, je voudrais dire qu'il faut que les ministres et les professionnels de la CRE puissent d'abord adopter certaines mesures qui peuvent d'abord sauvegarder vraiment la vie de nos enfants. En adoptant surtout vraiment, en faisant l'utilisation de cache-nez, bon, l'apport obligatoire, les lave-mains et certaines vraiment mesures barrières, surtout la distanciation sociale. Parce que la jeunesse actuelle, c'est l'avenir d'un Congo futur vraiment. C'est pourquoi je demanderais même au président de la République d'apporter vraiment un soutien, surtout dans des écoles se trouvant dans les provinces les plus touchées et dans nos villes, dans nos certaines villes les plus touchées vraiment, livrer des insectants vraiment, les thermoflash, pour vraiment faire face à cette pandémie qui risque vraiment de pénaliser les activités scolaires sur toute l'étendue du territoire national.
Bien. Merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Jean Bosco Puna, vous avez la parole.
Il faut dire que en rapport avec la courbe, il faut que les auditeurs comprennent effectivement que c'est le comité multisectoriel à la réponse qui peut nous donner toutes les réponses, parce que scientifiquement, eh bien, c'est le comité technique à la réponse qui suit l'évolution de la pandémie. Et je crois qu'en tant que citoyens, nous devrons faire confiance à ces comités. Mais par ailleurs, là où les camarades ont raison, c'est qu'il faut comprendre que la mesure de fermeture, c'est une mesure qui doit se prendre en dernier ressort. Il ne faudrait pas que de manière intempestive, que nous ayons des interruptions, parce que ça va fragiliser notre pays. N'oubliez pas que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est la jeunesse qui va prendre la relève demain. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait que, avant de prendre une mesure de fermeture, nous ne savons pas quelle sera l'évolution de cette pandémie. Est-ce que cette courbe qui a baissé va garder le même rythme? Alors, pour prendre cette décision de fermer, il faudrait absolument que ça soit en dernier ressort. Il y a un autre camarade, je crois, Pierre, qui a parlé de la distanciation sociale. C'est vrai que dans l'entretemps, il n'y a pas de nouvelles classes qui ont été construites. Voilà pourquoi nous voulons absolument que les mesures à notre portée, les dispositifs lavage-main, les cache-nez, la désinfectation des écoles. Mmh. Et donc, je crois que ce sont des mesures que nous pouvons prendre et qui ne vont pas nous demander trop de moyens. En rapport avec le calendrier scolaire, il y a un camarade qui a parlé des écoles privées qui auraient leur calendrier et qui ne vont pas être soumis au calendrier réaménagé, que non. Donc, je crois que les écoles publiques et les écoles privées agréées, toutes ces écoles sont soumises à un seul calendrier scolaire. Si le calendrier est réaménagé, ça sera à utiliser dans tous les établissements publics et privés agréés. Il n'y a pas d'établissements qui sont véritablement en avance.
Ouais, alors, mais d'après les infos, il y a des écoles privées, par exemple, qui ont continué à envoyer les exercices, les devoirs par mail ou par d'autres moyens sur Internet, et les enfants ont fait les examens, ils sont suffisamment évolués par rapport aux autres.
Oui, en effet, l'enseignement à distance, c'est un enseignement que nous encourageons, mais nous savons tous que l'enseignement à distance ne peut pas remplacer l'école. L'enseignement à distance ne peut pas remplacer les maîtres. Parce que même s'il y a des cours qui sont en ligne, mais ce ne sont pas toutes les matières qui sont données aux primaires et aux secondaires qui sont en ligne. Non, c'est quelques cours qui sont mis en ligne et c'est quelques élèves qui suivent cela. Ça veut dire que ces élèves-là peut-être ont connu une certaine avance, ils ont été renforcés et ce n'est qu'une bonne chose. Mais la majorité d'élèves ont même perdu le peu qu'ils avaient. Parce que n'oubliez pas que quand il y a décrochage, quand il y a rupture des fournitures des enseignements, eh bien, ça a de véritables conséquences. Il y a des enfants qui vont devoir reprendre et qui auront perdu tout ce qu'ils avaient, les prérequis. Donc, je crois que c'est un gain que nous aurons à pouvoir accepter les calendriers réaménagés dans tous les établissements pour requinquer davantage nos élèves et les préparer utilement. Voilà comment je peux réagir aux différentes préoccupations de nos compatriotes.
D'ailleurs, par rapport à l'enseignement à distance, il y a une élève qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, Senga Ingrid. Je ne sais pas si vous êtes également au courant de cela. Pendant le cours, cette élève ne faisait qu'embêter l'enseignant. Elle publiait autre chose. Maintenant, là, tout le monde est content avec la réouverture des écoles. Elle pourra retrouver son enseignant dans la salle des classes.
Mais tout à fait. Parce que, il faut comprendre que quand vous perdez 40 jours et que vous puissiez vous contenter de l'enseignement à distance, je crois que ça, c'est dénaturer même la mission de l'enseignement à distance, qui aujourd'hui est codifiée dans notre loi. Donc, en période de pandémie, en période de rupture, en période d'aléas politiques, même de problèmes, eh bien, on peut envisager les cours en ligne, mais ce sont des cours, justement, qui viennent comme palliatif, mais qui est provisoire.
Oui.
Donc, je crois que le définitif est arrivé. Mmh. Et donc, tous les élèves, tous les enseignants, le lundi, nous sommes à l'école le 22 février. C'est justement pour
Jean Bosco Pouna. Jean Bosco, quelqu'un a dit tout à l'heure que les vraies raisons de la fermeture des écoles, c'était cette affaire des paiements des nouvelles unités. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Mais toute chose restant égale par ailleurs, parce que maintenant, c'est le 22 février qu'on va devoir reprendre. Est-ce que les NU sont payés? Donc, vous comprenez que nous, au niveau du Sénécat, nous avons fait des analyses avec les enseignants. Nous ne pouvons pas nous dire aujourd'hui que c'est par rapport à la gratuité. Parce que la gratuité pour laquelle nous nous sommes battus pendant des années, et nous allons continuer à nous battre pour qu'elle se matérialise, qu'elle se pérennise, qu'elle se consolide. Eh bien, les NU, je crois qu'il y a un programme au niveau du gouvernement pour que les NU soient payés. Vous avez vous-même suivi, et c'est une occasion pour nous de saluer l'IGF qui a fait un travail excellent. Nous avons tous suivi.
Il y a eu Il y a eu des arrestations au niveau du CECOP.
Il y a eu des arrestations, c'est-à-dire il y a des personnalités, des hauts cadres de l'enseignement qui ont bradé les intérêts des enseignants. Et je crois que sur base de ça, ils ont été arrêtés. Mais maintenant, l'autre question, c'est quoi? Il faut absolument que nous retrouvions ce qu'ils ont pu dilapider. Il faut récupérer les fonds pour que les enseignants NU demain soient mis dans leur puissent recouvrer leurs droits. Et je crois que ça va devoir se faire. Donc, à notre point de vue, étant donné que les enseignants sont régulièrement payés pour ceux-là qui sont mécanisés, etc., étant donné que les écoles reçoivent les frais de fonctionnement, vous savez que les plus grandes écoles reçoivent 2 millions de francs congolais par mois, il y a des écoles de 18 classes qui ont 600 000 francs congolais, il y en a qui ont 400 000 et il y en a qui ont 90 000, ce n'est pas encore beaucoup. Mais cet effort-là est perceptible et chaque mois les écoles touchent leur salaire, les frais de fonctionnement. Également, les enseignants ils touchent leur dû. Les problèmes de NU a été compliqué par le ministre lui-même et tous ses collaborateurs. Je crois que c'est une question qui sera réglée lorsque nous aurons le gouvernement responsable que nous tous nous attendons.
Bien, Jean Bosco Pouna, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques de la RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va accueillir tout à l'heure le professeur Jean-Marie Kayembe, président de la commission prise en charge au sein du comité des ripostes contre Covid-19. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Écho du développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes des solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Bien, nous parlons de la réouverture des écoles. C'est le 22 février, c'est la date officielle de la réouverture des écoles et des universités. À RDC, ceci après 2 mois de fermeture à la suite de la deuxième vague du Covid-19. D'après le secrétariat technique de Riposte, les mesures prises par les chefs de l'État face à la deuxième vague ont donné des résultats encourageants car on assiste à une baisse des cas de contamination. Nous avons en ligne le professeur Jean-Marie Kaimbé, président de la commission prise en charge au sein du comité des ripostes. Professeur Jean-Marie, bonjour. Professeur Jean-Marie Kaimbé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Alors, nous savons, le comité des ripostes a annoncé que c'est à cause de la baisse des cas. Certains disent que non, il y a eu beaucoup de pression au niveau du comité. C'est ce qui a conduit à cette décision. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet?
Oui, ma première réaction est de dire que la liberté d'expression est reconnue à tout le monde, même au président Trump. Vous avez entendu la défense des républicains. Mais je voudrais surtout dire qu'on doit avoir une attitude responsable. Et une fois, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie, conjuguer le verbe dans le bon sens et au temps qui convient le mieux. C'est en responsable que le secrétariat technique, organe technique et conseiller du gouvernement, a présenté des chiffres, a présenté des tendances épidémiologiques vérifiables. Et c'est sur base de cette présentation que la décision revenant aux décideurs a été prise et de manière tout à fait responsable de reprendre les enseignements d'ici le 22.
Bien. Alors, quelles sont les dispositions qui doivent être prises au niveau des écoles pour prévenir, pour une reprise sans risque de contamination dans les écoles et universités?
Oui, le risque zéro n'existant pas, je pense que la chose la plus importante, c'est d'abord la communication. La communication pour un comportement des mentalités responsables. Faire appliquer le plus possible les mesures barrières. Je voudrais ici reprendre éventuellement une décision de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait demandé à toutes les institutions de créer des comités COVID. Les institutions qui ont appliqué ce comité COVID ont certainement élargi l'assiette des personnes qui devront veiller à l'application au quotidien des mesures barrières. Les mesures barrières, on ne le répétera jamais assez, consisteront notamment en l'établissement des points de lavage de mains, le gel hydroalcoolique, mais également le port du masque et la distanciation dans les lieux d'enseignement. Éviter les grandes agglomérations, éviter les espaces fermés, qui sont des espaces favorisant la circulation du virus. Donc ces comités, à mon humble avis, ces comités de riposte COVID dans toutes les institutions aideront les autorités qui gèrent ces différentes institutions à appliquer régulièrement les mesures. Il n'est pas compliqué d'avoir des thermoflashs sur les points de passage de tous les animateurs, les acteurs dans les institutions. Le faisant et correctement, nous pouvons mitiger de manière sensible la propagation du virus.
Bien, on va accueillir Richard Junior Kabea depuis Kananga. Bonjour Richard, quelle est votre question?
Cher J.R. Lungembo.
Jody, ce n'est pas J.R., c'est Jody.
Oui, c'est Jody, merci beaucoup. Ma question est de savoir, parce que je suis l'un des enseignants sur la ville de Canaan. La fois passée, lors de la reprise, il y avait les masques, les lave-mains aussi, il y avait tant de choses qu'on donnait pour la reprise des cours. Et puis, notre école n'a pas bénéficié de ces choses. Et j'ai demandé à l'invité qui est dans votre studio de nous dire sur quels critères on cible les écoles pour la distribution de ces biens-là. C'est pourquoi je cherchais à savoir. Parce que il y a.
Richard, est-ce qu'il ne revient pas à chaque école de pouvoir de s'organiser par rapport à ça?
Oui, l'école peut s'organiser, mais les moyens peuvent ne pas convenir. Parce que nous avons fait autant de mois. Lorsque l'école ne fonctionne pas, rien ne peut entrer. et surtout les écoles qui ne sont pas payées. Alors, c'est pourquoi je demande à l'invité de nous dire sur quelle base de critères il se met à distribuer ces biens-là, surtout dans ce moment très difficile. Les écoles fonctionnent avec beaucoup de difficultés. Alors,
nous, on marche. Merci Richard. Merci Richard. On va donner la parole à Jean-Pierre Bolimoukana. Il est à Yanongé, dans la province de la Tchopo. Jean-Pierre, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci Radio Kapi, Radio de la Paix. C'est Jean-Pierre Bolimoukana. Je suis à Isangui.
Jean-Pierre, je l'ai déjà dit. Passez directement à la question.
Ok, j'interviens pour le problème de rentrée scolaire. Bon, les mesures que vous avez proposées, les mesures, nous n'avons pas autre chose. Nous voulons seulement dire au gouvernement, à l'État de bien actualiser toujours les mesures des barrières pour que nos enfants ne puissent pas ne puissent pas avoir la maladie, puisque cette pandémie nous ravage dans l'avenir. Bon, le problème de calendrier scolaire. Le calendrier scolaire doit être aménagé peut-être pour que on puisse avoir un calendrier bien spécifié, bien déterminé, même à l'ISPT, bien aux universités, aux études supérieures. Voilà ce que je pouvais proposer.
Merci
pour
Jean-Pierre.
La nation et pour
d'accord.
Le pays. Merci beaucoup, bien. Monsieur le journaliste.
Professeur Jean-Marie, vous avez la parole.
Merci beaucoup.
Je voudrais simplement dire que nous devons cesser d'avoir des attitudes totalement paternalistes, celles dans lesquelles nous attendrions tout de l'État ou tout d'une institution. Toutes les institutions d'enseignement ont certainement des comités de parents, etc. Au moment où les écoles étaient toutes fermées, ça n'a pas eu à plus d'un. On a même eu une réaction de l'UNICEF, une réaction de certaines ambassades, étant donné que la réponse à la pandémie, elle dépend des pays, elle dépend de l'organisation, elle dépend de la structuration mentale, mais structuration aussi de l'espace, etc. Je pense que les parents se mettant ensemble, les dirigeants, les responsables des institutions d'enseignement se mettant ensemble, avec l'appui de dirigeants. Nous avons des bourgmestres, nous avons des comités de parents, nous avons des associations de leaders, nous avons des ONG qui font un petit peu de charité, etc. Ensemble, je pense que nous pouvons produire, livrer à nos enfants, aux écoliers, aux élèves, les moyens les meilleurs pour qu'ils puissent se protéger contre la pandémie. Le chef de l'État nous a invités tous à un élan de patriotisme en disant un ennemi commun, mais un ennemi invisible. On va à la guerre, pas en ordre dispersé, mais c'est dans l'unité que nous pouvons trouver des solutions. Je pense qu'à tous les niveaux, la riposte est une question de tout le monde, impliquant toutes les couches de la population, impliquant les décisions à divers niveaux. Le deuxième intervenant conseille simplement un petit peu de vigilance. Nous pouvons qu'aller dans son sens pour dire l'organisation au niveau des écoles. J'ai insisté, et à mon humble avis, je réinsiste là-dessus, c'est vraiment la mise en œuvre, l'application même de ces comités de riposte. Les comités de riposte ne vont pas se limiter uniquement à des mesures de gendarmerie pour voir qui ne lave pas ses mains ou qui les lave, encore que la coercition est parfois nécessaire, mais c'est aussi organiser la référence. Lorsque un cas est dépisté par le thermoflash, par la prise de température qui fait de la fièvre, c'est prévoir déjà de manière évidente comment faire partir, dans quel circuit, le sujet qui est suspect jusque-là d'avoir l'infection et le conduire auprès des structures. Il y en a dans toutes les provinces, les structures qui peuvent le prendre en charge. Nous insistons, nous, à la prise en charge médicale au niveau national aujourd'hui, à la décentralisation de la gestion de la riposte qui est étalée jusqu'au niveau des zones de santé, jusqu'au niveau des divisions provinciales de la santé. Tout le monde doit pouvoir s'impliquer parce que la riposte est multisectorielle.
Bien, on va accueillir Chico Bassa de Kinshasa et Frédience de Kananga. Chico, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la reprise de à la réouverture des écoles le 22 février? Oui.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi aux auditeurs et auditrices de la radio Capille. Oui, je pense que pour ne pas répondre à ce que certains patriotes ont parlé, j'avais peut-être des questions à poser à M. Kayembe. La première est la suivante. Le gouvernement a décidé que les cours prennent des années de ces mois. Est-ce que les salles et les auditoires sont déjà désinfectés? Et est-ce que le gouvernement a disposé des masques pour les étudiants et les élèves qui doivent reprendre les cours? Ça, c'est la première des questions. Deuxième question, M. Jody, je voulais un peu savoir, le gouvernement veut que les cours reprennent. C'est par rapport aux pressions que la population est en train de faire ou bien la situation de la maladie est déjà maîtrisée? Parce que selon certaines informations, on veut que les cours reprennent parce qu'il y a baisse de contamination. Est-ce que ça, c'est une vraie raison que le gouvernement peut autoriser que les cours reprennent? C'est ça les deux questions que j'avais à poser à votre ministre.
Merci. Frédience Kalala de Kananga, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, chers auditeurs de la radio Capi. C'est Frédience Kalala depuis Kananga. Bon, comme le sujet était lancé devant le sujet, nous avons constaté quelque chose de ici à Kananga. Bon. Les élèves ici, pour pouvoir vraiment obtempérer les mesures barrières, ils disent, par exemple, les ports de masques est vraiment, n'est pas vraiment obligatoire. Pourquoi? C'est parce que il y a beaucoup de difficultés vraiment sur la respiration. Et même pour l'élevage des mains comme ça, c'est vraiment un problème. C'est ainsi que je demanderais vraiment aux autorités vraiment sanitaires de pouvoir vraiment s'impliquer davantage pour que nous puissions aller de l'avant ainsi que les cours puissent vraiment reprendre vraiment durant vraiment cette période que nous avons vraiment déjà passée ici.
Bien, merci. Professeur Kayembe.
Au premier intervenant qui pense que le gouvernement décide sur base de la pression, etc., je crois que c'est un sujet sur lequel nous sommes revenus. S'il pense que la diminution du nombre de cas, donc les données épidémiologiques ne sont pas suffisantes pour aider à une décision, je ne sais pas dans quelle mesure ni quelle autre alchimie ou algorithme on devrait utiliser pour l'amener à comprendre que ce sont des indicateurs fiables, et ça dans tous les pays du monde. Par contre, attendre uniquement de l'État une distribution de masques, je pense que nous devons cultiver, secouer un temps soit peu nos méninges pour recourir à la solidarité nationale. J'insiste, nous insistons, ma modeste personne peut le faire également, sur le fait de mobiliser toutes les ressources possibles et les masques en tissu dont chez nous, nous avons tous parlé jusqu'ici de l'efficacité, qui peuvent être lavés, qui peuvent être repassés plusieurs fois, sont déjà des masques qui peuvent être utilisés à ce niveau-là. Maintenant, les barrières socioculturelles qui font que l'on refuse parfois le port du masque pour des raisons qui ne sont pas suffisantes, l'hygiène corporelle qui disait déjà pour éviter le péril oro-fécal, le péril de maladies de mains sales, laver les mains quand on va à la toilette, on l'apprend aux enfants à la maison, on le leur apprend également à l'école. Aujourd'hui et davantage, parce qu'on sait que ces mesures sont les plus sûres pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Améliorons la communication en famille, les leaders d'opinion dans les églises, etc., au niveau de la communauté, pour que tout le monde lutte et de la même façon. Je pense que la réponse, elle est à peu près superposable pour le deuxième intervenant, étant donné que les questions vont à peu près dans le même sens.
Oui. Alors, quelqu'un a parlé dans cette émission de la désinfection au niveau des écoles. Est-ce qu'il faut... les écoles doivent s'organiser ou il faut attendre tout de l'État? Parce que certains, j'entends des gens dire le gouvernement doit fournir les masques, fournir ceci ou cela.
Hélas, vous imaginez l'État-providence. Mais nous allons alors demander au gouvernement demain de venir désinfecter nos maisons, de venir nous empêcher de jeter les déchets de bouteilles ou les déchets domestiques dans les caniveaux, etc., qui entretiennent après des problèmes de pollution au niveau de la communauté. Je pense que nous devons tous nous sentir concernés. C'est une lutte qui nécessite la mise en commun des intelligences, la mise en commun des moyens. Et quant à nettoyer tout simplement les espaces, les écoles, etc. Oui, on sait très bien l'efficacité de Javel. Mais le Javel, on en trouve même dans le commerce, à mon humble avis, sans être totalement spécialiste des questions d'hygiène, des infections locales, des espaces. Je pense qu'on peut utiliser le Javel en nettoyant la maison correctement. Ça, c'est déjà un moyen qui peut aider. Maintenant, la reprise, elle est prévue, elle est programmée pour le 22. D'aujourd'hui à lundi prochain, quelques jours nous séparent encore de la reprise des activités. Y a-t-il pas moyen de s'organiser pour déjà au moins des grands espaces les désinfecter? La faculté de médecine de l'université de Kinshasa a dû recourir à la désinfection des locaux et je pense d'ailleurs que les dirigeants sont conscients du fait que cette semaine peut être mise à contribution pour éventuellement assurer déjà la désinfection. Mais surtout, assurer également les points de lavage d'eau et de contrôle de température à l'entrée des auditoires. Ceci est totalement faisable. Mmh. Un peu de bonne volonté et de mise en commun des énergies et des ressources nous permettra de mieux affronter cette pandémie qui est un ennemi, mais dont cet ennemi est tout simplement invisible.
Bien, professeur Jean-Marie Kayembe, président de la commission prise en charge au sein du comité des ripostes, merci et à la prochaine.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Urban Scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tout le jeudi et vendredi à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Réouverture des écoles.
Urban Scène, votre magazine de musique urbaine. Une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tout le jeudi et vendredi à 15h30. Le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Nous parlons de la réouverture des écoles. Quelles sont les dispositions prises pour faire face au Covid? Comment les parents doivent s'organiser pour envoyer leurs enfants à l'école? Nous avons en ligne David Yatezoa. Vous êtes président de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, comment avez-vous accueilli cette nouvelle de la reprise des cours le 22 février?
Mais nous avons accueilli avec joie puisque c'était l'aboutissement du lobbying que nous avons fait auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement et auprès des gestionnaires des établissements, y compris les autorités sanitaires. Et donc, nous avons vraiment souhaité cette reprise des cours. Donc, nous avons accueilli avec joie la décision du chef de l'État de rouvrir les écoles.
Bien. Alors, comment les parents doivent se préparer pour envoyer leurs enfants à l'école la semaine prochaine?
Bien. D'abord, nous encourageons tous les parents à équiper nos enfants des masques pour qu'ils se protègent et dans la rue et dans les écoles. Et nous invitons les gestionnaires de donner aussi ce qu'il faut aux enseignants pour qu'ils soient protégés et prémunis contre cette pandémie et surtout les dispositifs de lavage de mains. Ça ne peut pas manquer à chaque entrée de salle de classe. Il faut ces dispositifs-là. Donc, c'est tout ce que nous demandons. Mais alors, nous souhaitons vivement que l'école reprenne. Il faut rapidement que le ministre puisse signer le calendrier réaménagé afin que on puisse prendre compte du temps perdu où les enfants n'ont pas été à l'école, mais entre-temps qu'on réponde aux exigences d'une année
scolaire valide.
Bien. Et par rapport aux frais scolaires, nous savons que la gratuité est déjà instaurée, mais il y a des écoles conventionnées qui demandaient déjà aux parents de venir payer quelque chose. Certains ont déjà versé une première partie. Peut-être que les écoles vont encore demander aux parents de venir solder. Qu'est-ce que vous dites à ces sujets?
Bon, il n'y a pas de confusion à faire. La gratuité ne concerne que les écoles primaires publiques. Donc, les écoles primaires publiques, là, les parents ne doivent rien payer parce que le gouvernement donne les frais de fonctionnement et la rémunération aux enseignants, et même les nouvelles unités. Il n'y a plus d'enseignants, une nouvelle unité qui n'est pas payée. Donc là, il n'y a pas à redire. Maintenant, pour ce qui est des écoles primaires, les écoles secondaires public, là, les gouverneurs ont fixé des frais de scolarité et nous invitons les parents à payer ces frais de scolarité pour que qu'il n'y ait pas de problème de fonctionnement au niveau des établissements d'enseignement. Et, s'agissant des écoles privées agréées, là, évidemment, nous, les parents, nous payons depuis la maternelle, le primaire et les humanités. Là, il n'y a pas de problème. Donc, nous invitons les parents à accomplir leur part de devoirs à l'école. Donc, nous devons payer les frais de scolarité là où c'est réglementé.
Par exemple, pour les élèves qui sont en 7e année, ils doivent absolument payer.
Ce ne sont pas les élèves qui payent, c'est nous les parents qui payons pour nos enfants qui sont en 7e et 8e.
Oui, c'est ce que je veux dire. Les élèves qui sont en 7e et 8e, donc les parents doivent payer.
Doivent payer, oui, doivent payer.
Bien. Alors, un message avant de terminer, un message à tous les parents qui vous écoutent en ce moment par rapport à cette reprise des activités dans les écoles.
Les parents, c'est un message d'encouragement. Chers parents, vous m'avez pressé de toutes parts à travers la République. Président, faites quelque chose, il faut que les enfants reprennent. Nous avons fait le plaidoyer. Nous nous sommes assumés. Et nous avons continué à faire pression. Maintenant, le président de la République vient d'élever la suspension des enseignements. Donc, la reprise des cours est programmée pour le 22. Allons-y, mobilisons-nous, envoyons nos enfants à l'école et payons les frais de scolarité, mais refusons de payer dans les écoles primaires publiques.
D'accord. Là, il n'y a pas de frais à payer. Merci David Diatezoa. Je rappelle que
oui,
vous êtes.
Mais nous demandons à l'État, au pouvoir organisateur,
oui,
qui a l'inspection, qui a l'administration, de s'assumer pour sanctionner tous ces chefs d'établissement.
Merci David Diatezoa. On n'a plus beaucoup de temps.